Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h.
Alexandre Lepère.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première émission de Microcité sur Radio Campus Grenoble, saison 2018-2019. Pour ceux qui nous découvrent, Microcité, c'est une demi-heure d'information avec une place pour le débat et un grand format. Derrière le micro, 8 étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. Une nouvelle promotion et une pensée à nos prédécesseurs qui volent désormais de leurs propres ailes. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, l'opposition entre les défenseurs de la cause animale et les bouchers, alors que des actes de vandalisme se multiplient sur les vitrines des boucheries ces derniers mois. La lutte des véganes doit-elle passer par la violence pour se faire entendre? Notre débat d'ici quelques minutes avec Julien Penaud et nos invités en studio. Puis nous rendons hommage à l'une des icônes de la chanson française. Charles Aznavour nous a quittés lundi. Rudy Pupin est parti à la rencontre de la communauté arménienne à Grenoble. Notre reportage grand format en fin d'émission. Vous nous écoutez sur le 90.8, sur le www.campusgrenoble.org, mais vous pouvez aussi réagir en direct sur notre page Facebook. Microcité saison 2018-2019 numéro 1, ça commence maintenant. Et tout de suite, place au journal, il vous est présenté par Léo Corcos.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'ultime adieu à Charles Aznavour, le chanteur mort lundi à 94 ans a eu droit à un dernier hommage dans la cour des Invalides en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre arménien. La grève dans les déchetteries de la métropole grenobloise, elle dure depuis 2 semaines. Les agents protestent contre la modification de leurs conditions de travail. On vous explique tout dans ce journal. La semaine de la non-violence à Grenoble, l'association Villeneuve Debout renouvelle son message pacifique 6 ans après la mort de Kevin et Sofiane. Enfin, octobre est associé à une opération de sensibilisation contre le cancer du sein. Ça s'appelle Octobre Rose et ça se déroule dans la capitale des Alpes. Luc Chemla a enquêté sur une nouvelle méthode d'accompagnement des malades, l'hypnose.
Microcité.
Salut l'artiste. Charles Aznavour a eu droit ce matin à Paris à un hommage national dans la cour des Invalides, 4 jours après sa mort à l'âge de 94 ans. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités telles qu'Eddie Mitchell ou Jean-Paul Belmondo. Le président français Emmanuel Macron a également prononcé un éloge funèbre aux côtés du Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Charles Aznavour, c'était 1200 chansons composées et 180 millions de disques vendus, le tout en 70 ans de carrière. On revient sur cette grande figure de la chanson française en fin d'émission. Perturbation dans la métropole. À l'appel de la CGT, le fonctionnement des déchetteries de l'agglomération grenobloise est bouleversé par une grève qui dure depuis 2 semaines. 10 déchetteries sont actuellement fermées et 15 de leurs gardiens sont déclarés grévistes. La principale revendication, arrêter de rendre le travail obligatoire le dimanche. Aurélia Valarié fait le point.
Jamel, tu peux donner la pétition à la dame s'il te plaît?
Il est 9h à la déchetterie de Jacquard et les grévistes distribuent leurs pétitions aux usagers. Pour en finir avec le travail le dimanche, François Barre, gardien de déchetterie, estime que la métropole doit mieux aménager le temps de travail en semaine.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous concerte par rapport à des nouveaux horaires d'ouverture des déchetteries, qu'on travaille de manière continue du lundi au samedi. On leur a proposé déjà du 8h-19h, des choses comme ça. Seulement, c'est sûr que ça nécessite un certain coût. Mais bon, la métro ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de mettre des intérimaires pour remplacer l'agent gréviste ou les agents absents.
Mais pour Georges Oudjaoudi, en charge de la collecte et la valorisation des déchets à la métropole, cette revendication n'a pas lieu d'être.
Il n'est pas question de travail du dimanche dans les déchetteries. Il est question uniquement d'un surservice des déchetteries occasionnel. Donc nous avons répondu jusqu'à présent avec du bénévolat. Ils estiment que c'est un élément qui mérite de faire grève, ça j'y peux rien.
Ce matin, métropole et syndicats se sont réunis, un accord oral a été conclu, mais pas question pour l'instant de suspendre la grève. La CGT attend que l'accord soit mis à l'écrit. La métropole devrait réunir à nouveau cet après-midi les gardiens de déchetterie pour tenter de mettre un terme à ces blocages.
Et la pétition des gardiens de déchetterie a pour l'instant recueilli 600 signatures environ.
Et maintenant, Léo, Gérard Collomb marche seul.
Le désormais ex-ministre de l'Intérieur, qui a forcé sa démission du gouvernement mardi, a annoncé aujourd'hui qu'il se présenterait sans l'étiquette La République En Marche à Lyon aux élections municipales. Il déclare vouloir rassembler autour d'un projet. Pour mieux préparer cette échéance électorale, l'actuel maire de Lyon, Georges Képénékian, a démissionné mercredi afin que Gérard Collomb retrouve la tête de la ville. C'est la semaine de la non-violence à Grenoble. À cette occasion, l'association de quartier Villeneuve Debout organise plusieurs animations de sensibilisation. Mais ce genre d'événement a-t-il une réelle portée alors que la capitale des Alpes est aujourd'hui désignée comme un Chicago français? On a posé la question à Alain Manac, le président de l'association.
Ça, c'est une question qui est sur laquelle il est impossible de répondre, non pas pour se défausser, mais comment est-ce qu'on fait l'évaluation qualitative d'une transformation d'une personne qui devrait passer de violence à non-violence ? C'est impossible. C'est l'ensemble d'un dispositif social, humain, qu'il faudrait faire en sorte que les gens se sentent accompagnés. La transformation sur quelqu'un qui a vécu dans une famille violente, où il se faisait tabasser en permanence et qui n'a que 300 mots à sa disposition. Quand il n'arrive pas à se faire comprendre, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape. Comment on fait bouger ça ? C'est pas ni les discours, ni des flics, ni des juges, c'est le temps. Et la prise de conscience avec un trajet de lui-même qui lui permettra de bouger et d'évoluer. Je ne sais pas si un spectacle a une influence là-dessus. Mais c'est comme tout événement artistique, culturel, éducatif, on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient ceci ou devient cela. C'est un ensemble de dispositifs.
Et les animations se poursuivent dans le quartier jusqu'à lundi soir. Mission accomplie pour François de Rugy, les vallées du Béarn ont accueilli aujourd'hui une deuxième ours femelle après celle relâchée jeudi. Le ministre de la Transition écologique souhaitait sauvegarder une espèce en voie d'extinction, et ce malgré l'opposition des éleveurs et des élus locaux qui craignent pour la survie des troupeaux. François de Rugy leur a promis de poursuivre le dialogue.
La campagne d'Octobre Rose a commencé lundi à Grenoble.
Et oui, jusqu'à la fin du mois, elle mènera des actions de sensibilisation autour du cancer du sein. Une occasion d'évoquer de nouvelles méthodes d'accompagnement des malades, comme l'hypnose. Au centre de cancérologie du CHU de Grenoble, on utilise cette méthode depuis déjà 2 ans. Luc Gemla.
Sur les 200 femmes suivies l'an dernier pour un cancer du sein, 40 ont été opérées sous hypnose. Anna Roger, médecin anesthésiste spécialement formée à cette pratique, raconte comment elle procède avant l'intervention.
On va choisir un thème propre à la patiente, qui peut être un souvenir agréable ou alors un endroit où la personne est bien. Et cette personne va nous donner des informations sur ce qu'elle y voit, ce qu'elle ressent. Et puis nous, on va se servir de ces éléments qu'elle nous aura donnés pour essayer de lui faire revivre pendant le temps d'hypnose ce souvenir.
L'hypnose peut remplacer l'anesthésie lors des opérations, mais pas seulement. Véronique Albaladejo, infirmière anesthésiste au CHU, nous explique ses bienfaits.
L'hypnose permet d'aller chercher des ressources qui vont pouvoir l'aider lors de sa chimiothérapie, de sa curithérapie, de sa radiothérapie. Ça facilite la thérapie, ça ne soigne pas, mais ça va aider à développer les défenses contre la maladie.
Mais toutes les femmes ne sont pas prêtes à l'essayer. Jamila a toujours refusé l'hypnose, même durant son ablation du sein il y a 1 an.
Je ne suis pas réceptive à ce genre de pratique. J'avais trop peur de me réveiller et d'avoir trop mal pendant l'opération. Je crois à d'autres médecines douces, mais celle-là, non, ça ne me convient pas.
Malgré certaines réticences, le recours à l'hypnose se généralise au CHU et sera à l'avenir de plus en plus utilisé.
Et chaque année, ce sont 54 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués et ce sont 12 000 femmes qui y succombent. Nouveau coup dur pour Toyota, le constructeur automobile a annoncé aujourd'hui avoir rappelé près de 2,5 millions de voitures hybrides dans le monde, dont 38 000 en France. Ces voitures dotées d'un moteur à essence et d'un moteur électrique, et donc plus respectueuses de l'environnement, auraient un problème de fonctionnement qui pourrait entraîner des accidents. Ce n'est pas une première pour le groupe, le mois dernier, plus d'un million de véhicules avaient été rapatriés.
Le prix Nobel de la paix voit double, Léo.
Le prix Nobel de la paix a en effet été attribué aujourd'hui au médecin congolais Denis Mukwege et à Nadia Mourad, une ex-esclave du groupe État islamique. Ils sont récompensés pour avoir œuvré contre les actes sexuels perpétrés comme armes de guerre. Ils succèdent à Lee Khan, la compagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Clap de fin pour Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien a cessé sa grève de la faim entamée il y a 4 mois en signe de protestation contre l'annexion de la Crimée par la Russie. Il réclame aussi la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens. Oleg Sentsov reste toutefois emprisonné au pays des Tsars où il est accusé de terrorisme et de trafic d'armes. De nombreuses personnalités du monde culturel ont demandé sa libération.
Cristiano Ronaldo est prêt à jouer demain.
Oui, Cristiano Ronaldo est prêt à jouer, c'est ce qu'a déclaré son entraîneur Massimiliano Allegri aujourd'hui. Le joueur de la Juventus de Turin est accusé d'agression sexuelle par une femme de 34 ans. Les faits remontent à 2009 et se seraient déroulés aux États-Unis. Une enquête a été ouverte hier par la police de Las Vegas. Cette affaire n'est pas sans dégâts pour la Juventus de Turin puisque l'action du club en bourse a lourdement chuté de 5%. Cristiano Ronaldo, lui, a décidé de faire l'impasse sur la sélection portugaise.
C'était le journal de Léo Korkos. Merci beaucoup Léo. On vous retrouve en fin d'émission pour un rappel des titres.
Microcité.
16h39 sur Radio Campus Grenoble. Dans un instant, nous allons évoquer la question sensible de la cause animale. Restez avec nous, on revient après ça.
À 18 ans, J'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
C'est 16h43 sur Radio Campus Grenoble, c'était « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour. Nous reviendrons sur la disparition du chanteur franco-arménien dans une dizaine de minutes. En attendant, place au dossier.
Le dossier.
La tension monte entre les bouchers et les fervents défenseurs de la cause animale. Cette semaine, 2 vitrines de boucherie ont été cassées à Brest dans la nuit de mardi à mercredi. Un nouvel exemple des actes de vandalisme qui se sont multipliés dans plusieurs villes de France ces derniers mois. Alors quel est le regard des véganes sur ces actions? Comment les bouchers font face à ces violences? Pour mener ce débat, Julien Ponneau, va-t-on vers une escalade de la violence entre professionnels de la viande et militants de la cause animale?
Bonjour Alexandre, on connaissait les vidéos choc de l'association L214, des images virales filmées en caméra cachée dans des abattoirs. Maintenant, des boucheries sont prises pour cible, des vitrines cassées, des slogans marquants. Stop au massacre des animaux, boucher n'est pas un métier. Des phrases taguées en rouge sur les devantures des boutiques à Toulouse, à Paris, à Montpellier. Face à ce phénomène, les professionnels de la viande se mobilisent. Fin septembre à Lille, des bouchers ont dû faire appel à des sociétés de sécurité privées, une première en France, pour dissuader ces attaques. Derrière ces actes de vandalisme, les auteurs restent flous. Les regards se tournent vers les associations véganes. Ces dernières assurent qu'elles sont en majorité pacifistes. Pour le moment, les enquêtes se concentrent sur des courants minoritaires d'activistes. Alors la question, la défense de la cause animale est-elle en train de prendre une nouvelle dimension? C'est le débat de Microcité. Avec nous dans le studio, Pascal Clavel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'organisation des bouchers charcutiers d'Isère. Merci de votre présence. Et puis Angélique Sermeneau, bonjour. Vous êtes secrétaire et membre de l'association Cali à Grenoble, cause animale libre d'Isère, une association créée en 2015 qui mène des actions pacifistes pour dénoncer notamment la consommation de viande. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans nos studios. Une première question pour vous, Angélique Sermeneau. En tant que membre d'une association végane, quel regard vous portez sur ces actions? Est-ce que vous les soutenez ou est-ce que vous les condamnez?
À titre personnel, déjà, je les condamne parce qu'elles sont à l'opposé du point de vue végane. On est pacifiste avant tout. Après, on ne peut pas empêcher des groupuscules complètement extérieurs de faire n'importe quoi. Ils profitent certainement de la situation actuelle pour nous discréditer.
Pour vous, c'est une minorité. Ça concerne vraiment qu'une minorité.
Je pense que oui, ça peut être qu'une minorité, étant donné que ça ne touche que certains endroits et que les actions sont vraiment sporadiques.
D'accord. Pascal Clavel, vous, la Confédération française des bouchers de France a employé le terme de terrorisme. C'est un mot assez lourd. Est-ce que vous employez les mêmes termes pour ce type d'action?
Non, je n'irai pas jusqu'à employer le mot de terroriste parce qu'il faut le laisser à sa place. Il y a d'autres causes où on a affaire à ce genre d'individus. Je pense qu'on a affaire à des personnes qui défendent la cause animale. Et effectivement, dans le lot, il y a certains qui emploient des manières qui sont tout à fait discutables, pour ne pas dire à proscrire. Et ce qui est malheureux pour les défenseurs de la cause animale, c'est que dans le lot, ils ont affaire à deux, trois excités, faut les appeler comme ils sont, qui malheureusement n'ont pas le courage de leurs opinions et qui se permettent de dégrader des devantures avec des tags ou ce genre de choses. Il faut le remettre à sa place, ça reste des tags. Quand c'est cassé, c'est quand même assez embêtant. Mais je pense que c'est une mauvaise manière de défendre la cause animale.
Et que faire face à ces actions? Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Est-ce que vous allez, devant vos vitrines, mettre des vigiles, comme on le voit à Lille, par exemple?
Non, je connais mon collègue Rigaud, qui est président du Nord, des bouchers. Il est assez médiatisé et il emploie, je serais tenté de dire, il essaye d'employer les mêmes armes que ceux qui font ces dégradations. Ça peut appeler que l'escalade.
D'accord.
À mes yeux.
Alors, on a vu beaucoup d'images et des slogans qui reviennent souvent sur ces vitrines, qui est « non au spécisme ». Alors, le spécisme, pour les auditeurs, c'est l'idée que l'espèce humaine, est supérieure à toutes les autres espèces animales et que donc l'homme aurait la légitimité d'élever, de tuer et de manger des animaux. Angélique Sermeneau, est-ce qu'il y a une différence entre vegan et antispécisme ou est-ce que c'est le même courant?
Ça peut être le même courant. Parce que quand on est végane, on respecte toute vie.
D'accord, donc c'est vraiment les deux milieux convergent.
Après, au niveau des antispécismes, il peut y avoir je pense qu'il y a plus d'extrêmes à ce niveau-là.
D'accord.
Mais non, ça n'est que mon point de vue. Et sur le terrain, j'ai eu l'occasion de croiser des antispécistes tout à fait pacifiques.
D'accord. Ah, on va passer à la deuxième partie de ce débat.
Oui, merci à vous pour ces premières précisions, Angélique Sermeneau. Donc on va passer à la suite et à l'évolution des modes d'action véganes. Xavier Porro a interrogé Marianne Selka, chercheuse en sociologie à l'Université de Montpellier et auteure d'un livre intitulé « Vegan Order ». Elle nous explique que la question de la cause animale et de ses moyens d'action n'est pas si récente.
Il faut comprendre que c'est une vieille idée occidentale qui n'a cessé de tarauder les consciences collectives depuis l'Antiquité. Pour ce qui concerne de notre époque contemporaine, c'est à partir des années 60. C'est une critique, dès le début, une critique du système capitaliste, industriel, qui exploite non seulement les hommes, mais aussi les animaux. L'idée de base, c'était vraiment de causer des dégâts financiers à ceux qui sont à la tête ou qui sont intermédiaires de l'exploitation animale. Ce n'est qu'à partir des années 90 que cette sensibilité collective sort un petit peu des marges du social, de la clandestinité, avec la mise en place de fédérations antispécistes, d'associations et d'ONG animalistes qui, elles, se donnent pour objectif d'éduquer en quelque sorte les populations, histoire de véhiculer l'idéologie animaliste et de proposer du coup un mode de vie alternatif qui serait le véganisme.
Alors, Angélique Sermeneau, Marianne Selka parle d'un mode de vie. Pour vous, être végane, c'est un mode de vie, comme elle vient de le dire, ou plutôt une idéologie politique? Est-ce que ça va plus loin?
C'est un mode de vie, globalement.
Il n'y a pas derrière une idée de transmettre et d'essayer de convaincre politiquement?
Politiquement, non. Humainement, en tout cas.
Même à travers ces actions qu'on voit, que ça se répète souvent dans les vitrines, est-ce qu'il n'y a pas un message politique derrière ça?
ce n'est pas le message que le CALI propose, en tout cas. Et en dehors de tout ça, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui avaient des points de vue politiques complètement opposés aux miens. Et on se rejoint sur la cause animale, et pour moi, c'est le plus important.
D'accord. Est-ce que, face à certains cassages de vitrines comme ça, est-ce qu'on assiste à une radicalisation du mouvement vegan ? C'est un mot trop fort pour vous ?
Je pense que... Je ne sais pas s'il est approprié.
Vous employez quel terme en voyant ces actions sur les vitrines des boucheries ?
Ça rejoint plus l'anarchie, parce que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le mouvement, qui a des règles de fonctionnement quand même assez, assez simples, assez saines, assez claires. Et là, ce sont des gens qui sont complètement à l'extrême et qui ne répondent plus au mode de vie vegan, qui répondent plus au mode de vie vegan, quoi qu'il en soit.
D'accord. Et Pascal Clavel, est-ce qu'en Isère, vous avez dénombré des actions violentes comme ça auprès des boucheries ?
Je vais tenter de dire, on est un département assez paisible de ce côté-là, où je reconnais la qualité de l'association CALI et d'autres associations qui utilisent des moyens d'information.
Mais jamais d'action violente.
Traditionnelle, jamais d'action violente. Il y a eu quelques sittings devant l'abattoir de Grenoble en un certain temps. Mais voilà, je pense que la meilleure façon de faire passer leur message, c'est d'utiliser des canaux traditionnels. D'accord. À partir du moment où on... Et moi, j'emploierais le mot se radicaliser, c'est tout sauf porteur pour eux.
D'accord. Et
je ne parle même pas d'attaques qui nous qualifient d'extrémistes, pour ne pas aller jusqu'à ce qui s'est passé il y a 70 ans de ça.
Okay. On va passer au côté des consommateurs maintenant.
Oui, tout à fait. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de la consommation de viande par les Français. Elle est en baisse, moins 12% en 10 ans. C'est ce que nous apprend un rapport publié début septembre par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Xavier Ponroy, cette chute a plusieurs raisons.
Oui, les explications de cette baisse peuvent être multiples, mais trois principales méritent d'être dégagées. La première, concerne avant tout une hausse des prix. Depuis 15 ans, les prix de la viande ont augmenté bien plus vite que l'inflation. Pour prendre un exemple tout simple, un kilo de filet de bœuf valait 25 euros en 2000 contre près de 39 en 2014, soit une augmentation de près de 50%. Autre raison, une méfiance vis-à-vis de la santé. Le lien effectué par l'Organisation mondiale de la santé en 2015 entre consommation excessive de viande rouge et certains cancers, avait particulièrement marqué une opinion déjà très sensible à ces questions. Concrètement, les consommateurs cherchent à manger moins de viande et une viande de meilleure qualité. Enfin, troisième élément permettant d'expliquer cette baisse, une prise de conscience de ce que signifie manger de la viande, à la fois l'impact de l'élevage sur l'environnement et le bien-être animal. Mais pour autant, si cette consommation baisse, les Français semblent toujours attachés à la viande, produit dont 81% d'entre eux disent avoir une bonne ou excellente image, même si 47% considèrent que c'est un aliment consommé en trop grande quantité.
Angélique Clavel, ces attaques contre les boucheries sont-elles un accélérateur dans la prise de conscience du bien-être animal ?
Oui, alors l'accélérateur de la prise de conscience, je pense que ce sont tous les derniers événements auxquels on a pu assister depuis toutes les infos relayées par Internet, notamment. Je pense qu'une personne qui avait l'habitude de manger de la viande tous les jours aurait un autre regard quand elle voit des vidéos de ce qui se passe dans les abattoirs.
Et vous pensez que les actions qui ont été menées contre les boucheries, ça va influencer des gens à rejoindre votre cause ou pas ?
Pas avec ces actions-là, parce qu'il n'est pas forcément, il n'est pas question de passer pour des gens violents. Je ne pense pas qu'on aura plus de gens qui nous rejoindront avec ces actions-là, mais plus avec celles qu'on pratique déjà sur le terrain.
Et vous, Pascal Clavel, est-ce que parmi vos consommateurs, il y a un changement, il y a une prise de conscience, je dirais, pour la souffrance animale en voyant ces caillassages de vitrines ? Est-ce que vous avez remarqué ça chez vos consommateurs ?
Alors, nous, en tant que boucher artisan, on a affaire à des consommateurs qui sont plus ou moins éclairés quand même, il faut le dire ce qui est, notamment par l'intermédiaire d'Internet. C'est vrai qu'on constate une légère baisse sur le plan national de la consommation de la viande, parce qu'il y a beaucoup de viande de mauvaise qualité. Je fais abstraction des conditions d'abattage, où là, si je dois reconnaître une seule vertu à L214, c'est d'avoir filmé des choses qui étaient inadmissibles.
Mais est-ce que, du coup, dans votre choix de viande, vous faites attention?
Alors, j'ai beaucoup de collègues qui sont dans une démarche de viande labellisée, qui garantissent de bonnes conditions d'élevage.
Mais ça reste une exception, ça, quand même.
Eh ben, c'est une exception qui fait qu'on commence à vouloir être copié par la grande distribution, qui jusqu'à maintenant se souciait peu de la qualité de la viande. Et je passe sur les qualités d'élevage et d'abattage, où c'était le prix qui comptait.
D'accord, parce qu'on remarque qu'en France, il y a seulement 9,4% des éleveurs de porc qui étaient estampillés label rouge. Oui. C'est vraiment assez faible.
C'est une niche. Après, après-guerre, on a poussé à la production intensive en Bretagne ou ailleurs. Et on a récolté une viande de très mauvaise qualité. Et c'est ce qui explique le retard qu'on a sur les viandes de bonne qualité, labellisées, label rouge ou bio.
D'accord. Merci bien.
Il est malheureusement déjà l'heure de conclure ce débat, en effet. Merci à vous, Angélique Sarmeno, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes secrétaire et membre de l'association Cause Animal Libre d'Isère à Grenoble. Merci à vous. Merci à vous également, Pascal Clavel. Vous êtes le président de l'organisation des Bouchers d'Isère. Remerciements également à Julien Penaud pour la conduite de ce débat et à Xavier Pourbois, pour la préparation de ce dossier. Il est 16h55, vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble.
Microcité jusqu'à 17h.
Une journée de commémoration pour Charles Aznavour. Décédé lundi, le chanteur a reçu ce matin un hommage national dans la cour des Invalides. Une cérémonie qui a ému tant en France qu'en Arménie. Charles Aznavour s'était beaucoup engagé pour le pays de ses parents. En 1988, sa chanson « Pour toi, Arménie » a permis de venir en aide aux victimes d'un séisme qui avait fait à l'époque 30 000 morts. Demain, à Grenoble, la communauté de ce petit pays du Caucase saluera à son tour la mémoire de l'artiste. Rudy Pupin s'est rendu à la Maison de la culture arménienne pour saisir l'impact de sa disparition. C'est notre reportage grand format de la semaine.
Des bougies, un portrait, un livre d'or, la Maison de la culture arménienne de Grenoble s'apprête à rendre hommage à Charles Aznavour. Pour Gohar Akobian, arrivé en France il y a 3 ans, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent.
Charles Aznavour était venu en Arménie, j'étais toute petite. Nous étions allés à Gyumri avec mes parents pour le voir et le rencontrer. Je tenais un bouquet de fleurs à son attention.
Mais c'est surtout son soutien lors du tremblement de terre de 1988 qui a marqué les esprits. Gohar s'en souvient, une mélodie résonne toujours en elle.
Pour toi, Arménie.
Nous avons appris par cœur sa chanson. Ça nous a beaucoup impressionnés et touchés. Charles Aznavour était l'un des premiers à se rendre sur place après le séisme. La population arménienne y a vu un véritable espoir.
Ambassadeur d'Arménie en Suisse et à l'UNESCO, il était aussi à travers le monde par ses chansons. Charles Aznagian, un grenoblois d'origine arménienne, évoque le chanteur avec fierté.
C'était un grand monsieur. C'était un grand représentant des Arméniens de France et de partout, de national, d'international. Au début, bon, il avait des problèmes quand même pour s'intégrer. Puis sur le terrain, il s'est bien arménisé, même plus que d'autres Arméniens.
Pascal Babakian va plus loin. Pour le président de la Maison de la culture arménienne, Charles Aznavour était un modèle.
Aznavour, c'est un peu notre famille à tous. On se sent un peu orphelin, quoi, parce que c'est quand même un exemple de réussite pour tous les Français qui sont d'une origine arménienne ou autre. Cette réussite, elle est due à sa ténacité, à sa persévérance.
Demain, dès 15h, l'association accueillera ceux qui le souhaitent pour rendre un dernier hommage à Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Et si vous voulez rendre hommage à Charles Aznavour sur Grenoble, rendez-vous demain à la Maison de la culture arménienne. C'est au 15 cours de la Libération et du Général de Gaulle. Un livre d'or sera mis à disposition des visiteurs. Dimanche, une messe sera célébrée à la mémoire de Charles Aznavour. C'est 16h59 sur Microcité. Il est bientôt l'heure de se quitter. Mais juste avant, le rappel des titres avec Léo Corcos.
La France a rendu un dernier hommage à Charles Aznavour aujourd'hui. Le chanteur, mort à l'âge de 94 ans lundi, a eu droit à un hommage national ce matin dans la cour des Invalides, en présence de nombreuses personnalités, du Premier ministre arménien et du Président de la République Emmanuel Macron. Des militants du groupe identitaire, Génération Identitaire, pardon, se sont introduits dans les locaux de SOS Méditerranée, propriétaire du bateau Aquarius. Ils réclament la saisie de l'embarcation et l'arrêt de ses opérations. 22 personnes ont été interpellées. Le personnel de l'ONG est en sécurité. Enfin, une deuxième ourse femelle a été relâchée dans les vallées du Béarn aujourd'hui. La première y est depuis jeudi. Les deux femelles sont en gestation et pourraient mettre bas dès l'an prochain.
Microcité.
C'est déjà la fin de ce premier numéro de Microcité, mais ne soyez pas tristes, on se retrouve dès vendredi prochain à 16h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site www.campusgrenoble.org et pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur Facebook et Twitter @Microcité. Merci à tous de nous avoir suivis, passez un bon week-end à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.